Merci à vous.
Donc, bonjour à tous. Je veux commencer aussi donc par remercier Anne Bonnefoy de m'avoir invité à participer à ce cycle de conférences, ainsi qu'au reste de l'équipe du Centre Pierre Mendès France que j'ai déjà commencé à rencontrer, qui ont été très efficaces pour mettre en place tout ça et me faire signer tout un tas de petits papiers. Donc Anne Bonnefoy m'a invité il y a quelques mois à parler de ce thème suite à la publication d'un article qui s'appelait « L'écho des faits » dans la revue médiévale de 2010. Et elle m'a demandé de venir un petit peu présenter ce travail-là. Donc c'est effectivement une réflexion sur la question de la science et de l'expérience, plus particulièrement au Moyen-Âge, qui est un très très vaste sujet et que je vais effleurer simplement. Enfin, on va en parler d'une manière avec un point de vue assez particulier. Donc là, je vous montre un petit peu quel est mon objectif dans cette présentation. Donc il y a de nombreux travaux de chercheurs sur ce thème, bien sûr, qui vont depuis la très grande étude générale. Par exemple, on peut parler de Crombie, qui a fait un grand ouvrage, les styles de pensée scientifique, qui traite de cette question et de beaucoup d'autres. Il y a aussi des études particulières sur tel ou tel auteur médiéval, sur Grosseteste, sur Bacon, sur Albert le Grand, qui traitent aussi de ces questions-là chez eux. Il y a des études qui existent sur l'instrumentation particulière d'une discipline, par exemple sur l'astronomie ou sur la médecine. Et puis il y a des études sur des aspects particuliers, le vocabulaire employé pour décrire les expériences dans telle ou telle discipline. Donc le travail que je vais vous présenter, bien sûr, s'appuie sur toutes ces études et avec le point de vue particulier des sources primaire que j'étudie depuis une dizaine d'années maintenant, qui sont donc des textes, des traités d'optique, d'astronomie et de musique qui ont été écrits à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Donc c'est cette question générale de l'expérience et du sens qu'elle peut avoir dans la construction d'un savoir qu'on va regarder pour cette période et pour ces textes-là. Alors, le plan de l'exposé, donc je vais commencer par... J'espère qu'ils ne seront pas trop longs, mais il m'a semblé que c'était peut-être nécessaire de faire des petits préliminaires, une petite introduction pour poser vraiment mon problème. Comment est-ce que je vais problématiser cette question ici? Donc là, il y aura deux parties, un petit portrait de la science scolastique et puis un tout petit peu, parce que là aussi c'est vraiment très très vaste, d'épistémologie médiévale pour comprendre comment se poser la question pour eux. Ensuite, on examinera différents moyens d'accès à la réalité sensible, l'observation quotidienne, les sources livresques, et puis ce qui va nous intéresser le plus, parce que ça ressemble à ce qu'on trouve dans la science moderne, les expériences et les dispositifs de mesure. Donc, d'abord, un petit portrait de la science scolastique. L'idée, c'est de situer ce monde savant, la scolastique, qui est très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, pour donner un peu de chair, bon, c'est un grand mot, de substance en tout cas, aux considérations un peu plus abstraites que je vais faire par la suite. Donc, j'ai bien compris, une grande partie d'entre vous qui sont déjà médiévistes, donc je vais peut-être pas trop insister sur cette partie. Mais juste dire que donc la scolastique médiévale latine, c'est une scolastique particulière parmi beaucoup d'autres. Elle s'inscrit dans la lignée d'autres traditions scolastiques, comme celle de la fin de l'Empire romain, comme des scolastiques grecques aussi, ou directement en lien avec les scolastiques arabes. Elle partage certains traits communs avec ces scolastiques-là, et bien sûr, elle a ses spécificités propres. L'étude spécifique et les comparaisons de ces différents styles de pensée scolastique, c'est un des domaines important de l'histoire des sciences au moins ancienne en ce moment. Et si les questions que je vais soulever ici vous intéressent, il y a vraiment beaucoup de matériel pour les creuser. Notamment en ce moment, un projet à l'Institut Max Planck à Berlin qui traite de ces questions de manière assez large. Alors, d'abord des petits éléments chronologiques et géographiques. Donc la scolastique médiévale dont je vais moi traiter, celle de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle, elle est préparée longtemps avant par les renaissances carolingiennes et ottoniennes et par un mouvement important de traduction en Espagne surtout, en Italie aussi au XIIe siècle. Elle prend son essor D'abord dans les centres urbains du nord de la France et du sud de l'Angleterre, Paris, Oxford, les premières universités sont créées notamment dans ces lieux. Et puis à partir du milieu du XIVe siècle, notamment à cause de la guerre de Cent Ans, ces centres parisiens et Oxford diminuent un petit peu en importance et les universités essaiment vers l'Europe centrale et puis l'Est de l'Europe. L'université d'Yenne, pour le domaine qui m'intéresse moi beaucoup, l'astronomie par exemple, devient vraiment importante à partir de la fin du XIVe et du début du XVe siècle. Donc je passe rapidement, puisque je pense que c'est des éléments que vous connaissez à peu près. Éléments sociologiques, qui sont les gens qui travaillent dans ces... qui travaillent les textes? Alors, il y a différents types d'écoles, monastiques, des écoles cathédrales. Les ordres mendiants, donc les franciscains et les dominicains sont aussi très importants dans les études. Ils ont des sortes d'écoles qui sont à eux, les studium, qui sont en général des écoles de haut niveau en philosophie et en théologie. Et puis les universités, donc des corporations de maîtres et d'élèves qui organisent les études. Ça, c'est un premier groupe de personnes, les clercs et les religieux, qui vont être le groupe principal dans la production du savoir quand même. Durant ces périodes, en tout cas celles dont on a des traces. Et puis il y a des groupes dont on a un petit peu moins de traces, mais qui sont tout de même importants, notamment pour certaines pratiques mathématiques. Les marchands, alors les architectes, j'ai mis entre guillemets parce que, bon, voilà. Mais donc, c'est-à-dire les charpentiers, les gens qui sont sur les chantiers. Les arpenteurs ont des corpus, par exemple, de textes mathématiques un petit peu à eux. Les géométries pratiques, par exemple, pour les arpenteurs ou les architectes. Des arithmétiques pratiques chez les marchands. Donc on a des textes qui devaient être utilisés peut-être dans l'éducation pour ces corporations. Et puis il y a, à côté de ce monde un petit peu du travail, on pourrait dire, il y a quelques grandes cours savantes qui sont importantes dans la diffusion du savoir. Alors la cour de Clément VI à Avignon, Ferdinand II en Sicile, d'autres cours sont importantes. Donc, qui c'est qui stimule la demande de savoir? Elle vient de l'Église principalement, de certaines cours et de lieux de pouvoir, et puis de différents corps de métiers. Alors, les pratiques savantes, là on s'approche un petit peu de qu'est-ce que font les savants médiévaux. Donc essentiellement, c'est centré autour du texte, autour des textes, leurs travaux. Il faut produire les manuscrits, il faut les transmettre, il faut les conserver. Il faut les commenter, il faut faire en sorte de former des gens qui sont non seulement capables de faire toutes ces opérations matérielles, mais aussi de comprendre le contenu des textes, puisqu'on ne transmet bien que ce qu'on arrive à comprendre, surtout quand ce qui est écrit à la main. Voilà. Donc il faut produire des manuels scolaires, il faut discuter sous différentes formes. Donc là, je vous ai mis les questions, les disputes, c'est des formes d'enseignement à l'université médiévale. Puis les auteurs écrivent des traités spécifiques sur certains thèmes qui sont parfois des recueils de questions ou parfois autre chose. Et bien sûr, les célèbres, les sommes encyclopédiques qui sont importantes à la fin du XIIIe siècle. Donc, c'est une pratique, des pratiques intellectuelles, pratiques savantes qui sont surtout centrées autour du texte. C'est pas centré autour, pour le thème qui va nous concerner, c'est pas centré autour de laboratoires ou de lieux d'expérience ou d'instruments de mesure. Donc il y a une première question qui se pose, c'est où observer l'expérience ou l'observation dans les sciences médiévales. Alors, il y a différentes, en particulier pour ce qui est des sciences naturelles, il y a des textes qui permettent, qui rendent compte d'observation. Alors on verra comment donner sens à ce mot-là, mais... Pour introduire un petit peu, mais il y a dans la médecine et dans la pharmacopée, il y a des textes qui nous permettent de décrire alors, ce qu'on peut dire être des observations alors anatomiques ou parfois des observations de médecine, les textes de concilia, qui sont des textes dans lesquels les médecins discutent d'un cas particulier et des différents diagnostics et traitements qu'on peut envisager. Et puis, bien sûr, dans les textes qui vont nous intéresser plus, l'optique, l'astronomie et la musique, on va trouver là aussi, d'une certaine manière, en tout cas, ce que j'avais appelé dans l'article de Médiéval, un écho des faits. Alors, on va voir comment est-ce qu'il est déformé. Mais un certain nombre d'observations. Alors, ces pratiques d'observation dans ces textes d'optique, d'astronomie et de musique, elles sont finalement assez variées. On verra que il y a rien qui ressemble exactement à notre expérience où on teste une hypothèse et puis l'expérience nous dit oui ou non ou quelque chose d'un peu de ce genre. Mais il y a vraiment différents moyens de prendre en compte la réalité concrète. Et en fait, ce qu'on va discuter, c'est ces différents moyens. Donc là, j'en ai mis quatre. Je vais un peu regrouper les deux derniers, en fait, même si pour nous, c'est assez différent. Donc, observation quotidienne. C'est toutes les observations qu'on peut faire sans la provoquer particulièrement. Par exemple, c'est la nuit, il y a la pleine lune, ben on observe la pleine lune. On n'a pas mis en place un dispositif particulier pour la voir. Ou il y a un arc-en-ciel qui apparaît, ou il y a, bon, voilà, les observations qui viennent spontanément, sans qu'on ait besoin de les provoquer. L'utilisation de sources livresques, bah, on va aller chercher une expérience, non en la faisant nous-mêmes, mais en allant chercher quelqu'un d'autre qui l'a décrit avant nous, et on va utiliser cette description. Et puis, expérience de pensée, expérience sur le papier, ou expérience avec mesure et mise en place d'un dispositif spécifique. Donc, expérience de pensée, bah, bon, on a tous peut-être quelques exemples en tête avec Galilée ou des choses comme ça. C'est lorsqu'on fait une expérience, mais sans la réaliser réellement. On imagine quelque chose qui doit se produire. Alors, ça peut se faire juste en pensée, ou ça peut se faire, quand je dis sur le papier, vous allez comprendre bientôt que je signifie des situations dans lesquelles on ne peut pas se contenter de son esprit. On a besoin d'un morceau de papier, soit pour écrire quelques calculs, soit pour dessiner quelques figures, pour aider notre imagination à voir comment se déroulent les choses. Et puis, bah, expérience avec mesure et mise en place d'un dispositif spécifique, le plus simple à imaginer pour l'instant, c'est il y a la pleine lune, on la voit, et puis on décide de mesurer à quelle hauteur est la lune à tel moment de la nuit, par exemple. Donc là, on va utiliser un dispositif de mesure particulier, puis on va essayer de faire quelque chose de cette valeur numérique. Alors, donc ça, c'est les différentes pratiques qu'on observe. Comment est-ce que nos auteurs médiévaux décrivaient déjà ces sciences, l'optique, la musique, l'astronomie, pourquoi est-ce que je les ai mis ensemble, et puis leur rapport à l'observation. Donc là, ça va être à nouveau assez rapide et assez modeste, ce que je vais dire, parce que l'épistémologie médiévale, c'est vraiment c'est un des grands points forts de la science scolastique médiévale. Par exemple, je vous ai parlé d'une grande synthèse de Crombie au tout début de l'exposé, il retient finalement dans l'essentiel pour lui de l'apport des scientifiques médiévaux, des philosophes naturels médiévaux à la naissance de la science moderne, c'est justement un apport épistémologique. C'est l'essentiel. C'est un point fort de la science médiévale par l'ampleur des problèmes épistémologiques qui se posent. Ils se posent des questions sur la connaissance de Dieu jusqu'à la connaissance d'objets naturels en passant par des questions éthiques. Tout ça est considéré par les philosophes médiévaux, et par le niveau de précision, la qualité des distinctions qui sont proposées. Donc, ça nourrit toujours certaines réflexions philosophiques aujourd'hui. Par exemple, la querelle des universaux qui a eu cours chez les médiévaux des XIIIe et XIVe siècles a nourri certains courants de philosophie des mathématiques au XXe siècle. On s'est aperçu qu'il y avait des liaisons possibles. Donc, vraiment, je vais rester très modeste et je vais me limiter la manière dont les expériences sont décrites en optique, en astronomie et en musique. Et on va faire ça en deux temps. D'abord, pourquoi est-ce que je considère ensemble musique, astronomie et optique ? Comment est-ce qu'elles étaient décrites, ces disciplines, dans le cadre de l'épistémologie médiévale ? Et puis ensuite, une fois qu'on aura ce cadre-là, quel statut elle propose pour ces disciplines-là, pour l'observation. Alors, le premier cadre qui permet de vous comprendre pourquoi, au moins pour la musique et pour l'astronomie, on peut les considérer ensemble, c'est le quadrivium. Donc là, je vous ai mis une citation qui est au début du dé-institutionnaire arithmétique de Boès. qui présente rapidement une petite définition des quatre disciplines du quadrivium, donc arithmétique, musique, géométrie et astronomie. Alors le quadrivium, c'est une notion très ancienne, hein, c'est pas, voilà, Boès, déjà, on est loin du XIIIe et du XIVe siècle, et Boès lui-même arrive à la fin d'une longue histoire, quand c'est lui qui propose le terme quadrivium en latin en premier. Mais c'est quelque chose qui vient des écoles néoplatoniciennes, semble-t-il, essentiellement. Donc il y a un lien avec les multiples projets éducatifs qu'on trouve dans l'œuvre de Platon. Un moment important, donc, c'est Boès qui va transmettre cette structure aux médiévaux. Au moment de la Renaissance carolingienne, il va être mis en rapport ce terme avec le terme de trivium. Donc là, on aura du coup tous les arts libéraux. Donc trivium, c'est les arts du langage, grammaire, rhétorique, dialectique. Donc on aura les sept arts libéraux qui vont être mis dans une seule structure avec trivium et quadrivium. Et au moment de la formation des universités, cette discipline vont former la base du cursus de l'université des arts. Et ça sera le cas même après qu'il y ait la déferlante Aristote, on peut dire, où on lira beaucoup plus Aristote que les textes du trivium et du quadrivium, mais ça restera quand même malgré tout la structure. Alors, maintenant, ce petit passage, c'est une vision du quadrivium, la vision, on peut dire, néoplatonicienne, dans laquelle ce que je souhaite souligner essentiellement, c'est que les mathématiques, ils sont constitutifs de tous les objets qu'on a. C'est-à-dire, bon, les multitudes en elles-mêmes, donc les multitudes, c'est les nombres, hein. La définition du nombre, c'est d'être une collection d'unités, une multitude d'unités. Et la musique, elle n'étudie pas les sons, elle étudie les multitudes en relation. D'accord ? La géométrie, donc, étudie les magnitudes, donc les grandeurs continues. Et l'astronomie, elle n'étudie pas le mouvement des astres, elle étudie les magnitudes en mouvement. D'accord ? Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Pour comprendre un petit peu, là, je vais faire une petite comparaison, je pense, qui est assez, j'espère, parlante. On a tous appris en cours de géométrie que lorsqu'on dessinait une figure, un triangle par exemple, ou un carré, ou quelque chose comme ça, pour faire des démonstrations sur certaines propriétés, c'était pas ce triangle particulier qui nous intéressait, c'était ses propriétés abstraites. Et la représentation du triangle en elle-même, bon, était juste une sorte d'aide à l'imagination. Bah, de la même manière, on peut penser que lorsqu'on aborde la musique du point de vue du quadrivium, les sons qu'on entend effectivement, ils ont le même rôle que le carré qu'on a dessiné. Ça va être des aides pour entendre des rapports, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est les propriétés de ces rapports, et pas réellement les sons en eux-mêmes. De la même manière, les mouvements des astres, ce sera des aides pour imaginer les magnitudes en mouvement, mais ce qui nous intéresse, ce sont ces mouvements eux-mêmes. D'accord ? Donc là, c'est une vision très mathématique de ce qu'est le quadrivium. Et donc, pour Boès, bah, le quadrivium, c'est les mathématiques et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre dans les mathématiques. Alors, là-dedans, il y a un problème. Comment est-ce que... Alors, bah, j'ai expliqué un petit peu, en mettant mon exemple, quel peut être le rôle de l'observation, du coup, de ce point de vue-là. Bon, ça a l'air assez limité. Et puis, il y a le problème qu'il y a d'autres disciplines qui utilisent les mathématiques dans la description du monde réel. L'optique, qui va être très présente au XIIIe et XIVe siècle. La mécanique, qui va surtout arriver en force au XIVe siècle. Et puis, lorsqu'il y a toute la philosophie naturelle qui est là et qui offre un modèle de rationalité du monde réel, qui n'est pas celui proposé par le quadrivium, puisque la philosophie naturelle d'Aristote, elle n'est pas très tournée vers les mathématiques. Ce modèle du quadrivium va vraiment être mis en tension. Alors, sans aller tout de suite dans les débats du XIIIe siècle, le quadrivium, il était vu aussi d'une autre manière dès la fin de l'Antiquité. On peut regarder, pour illustrer ça, Isidore de Séville, qui propose, lui, de considérer que le quadrivium, c'est non pas les mathématiques, mais c'est la physique. Il se place dans un cadre d'une classification des sciences plus stoïcienne, dans laquelle on trouve, à côté de la physique, l'éthique et la logique. Et donc, le quadrivium, il est à l'intérieur de la physique, et dans ce cadre-là, il n'a pas de difficulté à associer au quadrivium, à mettre même dans le quadrivium l'optique et la mécanique, par exemple. Donc, il y avait déjà une vision plus physique du quadrivium qui existait dès le haut Moyen-Âge, même si elle était moins dominante. Donc, au XIIIe siècle, dès le XIIIe siècle, il y a une grande tension avec cette notion de quadrivium, parce que bah, toutes les disciplines ne sont pas dedans, et que faire avec toute la philosophie naturelle, quoi. Donc cette difficulté philosophique importante, elle a été résolue. Alors bien sûr, tout le monde n'était pas d'accord avec Thomas d'Aquin, mais Thomas d'Aquin a proposé une sorte de solution à ce problème qui va tenir peu ou prou à peu près jusqu'à Descartes, et qui est justement d'inventer la notion de science intermédiaire. Voilà. Je suis désolé pour le prochain diapo, il est un peu beaucoup de texte. Donc, c'est une notion qui l'élabore lentement. D'abord, dans le cadre, là, je vous ai mis le premier texte qui a été repéré, dans lequel on a l'expression de dire que certaines sciences vont être intermédiaires entre donc, les mathématiques et la philosophie naturelle. Vous voyez que c'est dans le cadre d'un traité sur le De Trinitate, donc de Boès. Donc c'est dans le cadre d'un traité théologique. Donc on est... il se pose en fait une question théologique sur qu'est-ce que je peux savoir sur Dieu, qu'est-ce que je peux savoir sur la Trinité. Et donc il est amené à manipuler différentes notions. Et il est en train, là, à ce moment-là, de décrire la division des sciences classiques chez Aristote, entre métaphysique, mathématiques et philosophie naturelle. Et entre mathématiques et philosophie naturelle, on voit qu'il intercale une catégorie qui sont les sciences intermédiaires. Alors, il les caractérise en disant que leur sujet, les conclusions que ces sciences, l'objet de ces sciences, c'est des objets naturels. Donc, par exemple, un arc-en-ciel, la position d'une planète ou un son. Mais que les moyens qu'elles utilisent pour démontrer ces conclusions ne sont pas les moyens de la philosophie naturelle, mais sont des moyens mathématiques. Donc, on va donner une preuve mathématique d'un phénomène naturel. Alors, ça, c'est un grand problème dans l'épistémologie aristotélicienne. Parce qu'on n'est pas censé, même par exemple, utiliser un raisonnement géométrique pour démontrer une propriété arithmétique. C'est un cas de sophisme un petit peu pour Aristote. Et Aristote pose ce principe d'incommunicabilité entre les méthodes des différentes disciplines dans un autre texte, dans un texte, c'est les secondes analytiques. Donc Thomas d'Aquin, quand il fait son commentaire des secondes analytiques, il revient sur cette question des sciences intermédiaires. Et il précise un petit peu les choses. Dans les secondes analytiques, Aristote, il introduit une notion, justement parce que Aristote, il connaît aussi l'optique, l'astronomie et la musique, et il a exactement le même problème. Donc comment expliquer que, je sais pas, en musique, on va utiliser des rapports de nombres pour expliquer comment construire une gamme. Donc là, Aristote introduit la notion de subalternation entre des sciences. Et l'idée, c'est de dire que, un petit peu ce que dit Thomas d'Aquin là, que l'objet sur lequel on travaille, c'est apporté par donc là, la philosophie naturelle, et puis la cause de la propriété qu'on veut montrer peut être apportée par les mathématiques. Alors, quand on dit cause et qu'on est avec Aristote, il y en a au moins quatre normalement qui apparaissent dans notre tête. Et donc je vais essayer de préciser un petit peu les choses. Et là, dans les secondes analytiques, c'est pas les quatre causes qu'on connaît, c'est la réponse à différents types de questions qu'on peut se poser sur les sciences. Donc il y a la question un petit peu de l'essence. Alors dans les traductions latines, c'est la question du quid est, le ce que c'est de la chose. Alors celle-là, c'est une question qui est à part. La philosophie naturelle ni les mathématiques ne la traitent. C'est une question pour les métaphysiciens, vraiment. Ensuite, il y a la question du quia. Alors, le quia, c'est le phénomène en lui-même. D'accord, c'est par exemple dans la théorie aristotélicienne de l'arc-en-ciel, Un arc-en-ciel, c'est un certain reflet sur un nuage. Donc un arc-en-ciel, voilà. Bon. Et puis, il y a la question du propter quid, le pourquoi de la chose, le comment elle se fabrique, comment elle se fait. Et donc, dans la notion de subalternation entre les sciences que Thomas d'Aquin va introduire dans son idée de science intermédiaire, eh bien, quia, c'est la philosophie naturelle, propter quid, c'est les mathématiques. Donc ça, c'est les deux principaux modèles qu'on a pour décrire ces sciences-là. Donc ce qu'on va essayer de retenir, c'est que l'élément particulier qui relie ensemble optique, musique et astronomie, c'est qu'elles vont toujours regarder les phénomènes naturels avec un œil mathématique, si on veut. Alors, d'une manière ou d'une autre, qu'on soit dans le cadre un petit peu plus platonicien du quadrivium ou plus aristotélicien des sciences intermédiaires, il y a un lien à produire entre les mathématiques, le côté de la raison, et puis l'observation, les sens. Il y a un lien à produire entre les deux. J'avais mis en gras tout à l'heure le mot abstraction. On va le voir réapparaître là. Alors, pour essayer de comprendre comment ce lien est fait, surtout dans le cadre sciences intermédiaires, je vais prendre des exemples qui viennent de la musique. D'accord ? Donc là, je vous cite un premier passage d'un texte qui est une de mes sources favorites, Jean de Mure. Donc Jean de Mure, c'est un maître essart, un enseignant dans la faculté des arts à Paris au début du XIVe siècle, qui a écrit des traités dans tous les domaines du quadrivium. Et là, c'est un traité sur... on a commencé à l'heure ? Bon, peut-être. C'est un traité sur la musique. D'accord. Alors, là, ce que j'ai voulu, c'est surtout la petite phrase en gras qui est au milieu. Hein, il construit une opposition entre l'oreille, l'organe des sens, et puis la raison de l'autre côté. Et l'oreille, elle entend le son, mais elle ne peut pas entendre les rapports. Ça, c'est seulement la raison. Donc la raison, faut la comprendre comme un sens interne. Et vous allez avoir bientôt, j'ai vu dans le cycle de conférences, un exposé sur le cerveau et l'imagination, etc. Donc la raison, c'est pas, c'est un sens interne, comme l'imagination. Voilà. Donc là, l'oreille, son domaine, c'est d'entendre le son, mais elle peut pas entendre le rapport, ce qui intéresse le musicien. Un peu plus loin, donc le contexte de cette citation, c'est Jean de Mure va expliquer comment Pythagore, il y a longtemps, en passant à côté d'une forge et en entendant les marteaux des forgerons, a découvert les rapports qui régissent les lois de l'harmonie. Donc au début, il expose que Pythagore se posait des questions, comment est-ce que je vais faire ? Et puis une fois qu'il est passé à côté de la forge des forgerons, qu'il a entendu que ça faisait des rapports musicaux. Il a demandé différentes choses aux forgerons, il est rentré chez lui, il a fait des expériences avec des cordes, des tuyaux, etc., tout un tas de choses. Et puis, là, c'est les phrases vraiment où on a une version vulgarisée du tout début de la métaphysique d'Aristote. Du souvenir cumulé de ses expériences, il tira un universel et un seul qu'il érigea en principe fondamental de l'art et de la science. Donc là, il y a une réécriture de la légende de Pythagore pour l'adapter à la métaphysique un petit peu d'Aristote et à l'épistémologie qu'il présente au début, qui dit que pour réussir à faire ce lien, il y a une abstraction qui doit se situer, qui doit se produire. Et cette abstraction, elle vient de... On a accumulé un certain nombre d'expériences sur des objets variés. Ça, c'est un point important. On ne refait pas 50 fois la même expérience qu'on réussit à reproduire et à cause de ça, on obtient une certitude. Nous, on a essayé avec des cordes, avec de l'eau, avec des cloches, avec etc. Et comme on a eu la même expérience, le même universel qui est apparu dans des situations proches mais variées, on peut tirer un principe. Et ce principe, il va devenir comme une sorte d'axiome, le point de départ de toute la science musicale. Et pas dans ce texte, mais dans un autre texte qui s'appelle La Musica, une fois qu'il a raconté l'expérience de Pythagore, le traité devient déductif. Donc il y a toute une première partie où il raconte l'histoire de Pythagore, une fois que Pythagore a trouvé son principe, on a posé que l'octave, c'était le rapport double, la quinte, c'était le rapport de 3 à 2, et puis des choses comme ça. Et à partir de là, on fait des démonstrations mathématiques. On passe à un autre régime, en fait, de savoir. Donc là, on a une certaine vision de l'abstraction. Donc, dans la mémoire, s'accumule des expériences, puis petit à petit, ça se décante, et on a le dénominateur commun, en quelque sorte. Et puis, il y a un autre type d'abstraction qui est lié aussi aux mathématiques dans le corpus aristotélicien. C'est l'abstraction géométrique. Par exemple, lorsque vous avez une figure géométrique, un triangle, ou lorsqu'on a ici, là, on peut considérer cette table comme un rectangle, alors on fait abstraction de tout un tas d'éléments de la table, qu'elle soit en bois, qu'il y ait une nappe dessus, qu'elle soit comme ci, comme ça, et on garde que la forme. Donc ça, il y a ces deux types d'abstraction dans le corpus d'Aristote, et il y a tous les mélanges possibles qui ont été faits par les philosophes médiévaux entre ces deux manières de présenter les choses. Alors, j'arrive à la fin de cette partie-là. Donc, le problème central, pour faire le lien entre mathématiques et expérience, c'est celui du passage du particulier à l'universel. Et dans le cadre de la théorie de l'abstraction, il y a la répétition d'expériences variées, et puis il y a le rôle de la mémoire, qui sont les deux éléments importants. Je vais aller un peu plus vite. Donc ces théories épistémologiques-là, ça permet de justifier l'emploi de l'observation quotidienne, on voit bien, comme il va falloir accumuler tout un tas d'expériences, l'observation quotidienne est vraiment importante. Les sources livresques aussi, puisqu'elles sont le réceptacle de ces observations, et puis aussi parce que c'est naturel un petit peu dans le monde des pratiques intellectuelles qu'ils avaient, qui était de lire et de commenter des textes. Mais par contre, ce qui est expérience et dispositif de mesure, c'est pas très clair comment on va pouvoir les exploiter, leur donner un sens dans le cadre de cette épistémologie-là. Donc, l'idée de la suite de l'exposé, c'est de voir comment c'est fait, comment on donne un sens à ces expériences et ces dispositifs de mesure en optique, en musique et en astronomie. Et il y a plusieurs aspects. Il y a le rapport à l'instrumentation. Les différentes disciplines n'ont pas la même instrumentation, donc ça va créer des situations différentes. Comme il n'y a pas de normes sur la manière de présenter ces expériences, il y a aussi toute une invention littéraire. Comment est-ce qu'on va décrire les choses? Je vais vous présenter peut-être deux, trois petits exemples. Et puis, il y a tout simplement l'optique, la musique et l'astronomie. Ils n'utilisent pas de la même manière l'observation quotidienne et les sources livresques. Et comme ce sont les éléments qui ont un sens a priori, dans l'épistémologie médiévale, quand ils vont vouloir donner un sens aux expériences, ils vont vouloir le relier au sens qu'a l'observation quotidienne ou au sens qu'a l'utilisation des sources livresques. Donc ça aussi, ça va créer des différences entre les disciplines. Et c'est ça qu'on va essayer de décrire un petit peu rapidement. Donc les moyens d'accès à la réalité sensible, d'abord on va regarder l'observation quotidienne. Alors, en optique, on observe des longues listes. Là, c'est un passage dans lequel Thierry de Freiberg, fin du XIIIe siècle, plutôt un grand philosophe, c'est le Thomas d'Aquin allemand, aime bien dire les Allemands, qui a écrit à la fin de sa carrière un certain nombre de traités sur l'optique et notamment sur l'arc-en-ciel, qui sont importants parce qu'il a le trajet du rayon lumineux, comme le retrouvera plus tard Descartes, longtemps avant lui. Et là, il a un passage au début de son texte donc sur l'arc-en-ciel, dans lequel il explique qu'Aristote pensait qu'il n'y avait que trois couleurs dans l'arc-en-ciel et que le jaune était une illusion d'optique. Et là, il essaie de prouver que non, le jaune existe vraiment. Donc il le fait d'abord en expliquant qu'il voit le jaune quand c'est sur la queue d'un paon ou d'un canard, sur les fils d'étoiles d'araignée ou sur les roues d'un moulin à eau qui tourne. Donc on a toute une série d'expériences, d'observations comme ça, quotidiennes, qui sont présentées. Puis là, il y en a une où il dit vraiment expérience quotidienne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce passage-là. Et où on voit qu'il ne fait pas simplement dire qu'il a vu du jaune sur les gouttes de rosée, il y a une structuration. Il faut qu'on soit en un lieu adapté par rapport au soleil et que le soleil, la vue et l'objet qu'on regarde soient dans une configuration correcte, que le jaune se voit de manière très claire et qu'on peut le voir dans le même ordre que l'arc-en-ciel et qu'on peut mettre son œil aussi près qu'on veut pour essayer d'éliminer toutes les causes qui pourraient justifier qu'en fait c'est une illusion. Si on peut le voir dans des bonnes conditions et d'aussi près qu'on veut, alors ça veut dire que ce n'est pas une illusion. Parce que sinon, elle ne serait pas robuste à ces changements-là. Et puis, la question de la position de la goutte de l'œil et du soleil, ça, en fait, Thierry Freiberg prépare un petit peu son argumentation à lui sur les causes de l'apparition de l'arc-en-ciel. Donc, ce petit exemple, c'était pour montrer bah, déjà qu'il y avait de l'observation quotidienne, qu'elle était décrite comme ça directement, hein, expérience quotidienne, et que ce n'est pas simplement une ornementation, en tout cas en optique. Il y a un rôle dans l'argumentation. Là, et ça se voit par la structuration de la description. Autre élément que je tiens à souligner, c'est que ici, l'être humain, il n'intervient qu'en tant qu'observateur. D'accord? En astronomie, là, j'ai mis un texte, donc les taboulés permanentes, vous n'avez pas trop besoin de savoir, c'est une des tables astronomiques qui servent à calculer, qui sont des éléments pour le calcul des éclipses. Et ça, c'est un élément c'est un passage de l'introduction. Et cette fois-ci, donc, il décrit de la même manière que bah, tout le monde observe les conjonctions et les oppositions, donc c'est les pleines lunes et les nouvelles lunes, que tout le monde observe ça, et surtout que tout le monde commente l'influence de ces événements sur la disposition du corps humain, la météo, la disposition de l'air. Donc là, il y a deux éléments à souligner avec ce passage. Premièrement, c'est seulement dans l'introduction de la table. En fait, ça sert de justification un petit peu pour dire que son travail va être utile, parce que tout le monde s'intéresse à cette question. Donc voilà, je le fais œuvre utile en parlant de la question des conjonctions et des oppositions. Et puis aussi, l'autre élément par rapport à l'optique où l'être humain intervenait qu'en tant qu'observateur. Là, ce qui paraît important, ce n'est pas tant qu'il y a des pleines lunes et des nouvelles lunes, c'est plutôt qu'elles nous intéressent pour des raisons astrologiques ou calendaires ou médicales. D'accord? Donc là, l'être humain, il est un peu plus qu'un observateur dans cette observation-là. Et puis, vous m'avez senti venir avec la musique. Cette fois-ci, l'être humain, il est non seulement observateur, mais il est aussi directement producteur des phénomènes qu'on observe. Donc ça, c'est un des... Toujours, je vous ai cité que du Jean de Mur, tiens. C'est un passage parmi de nombreux autres dans lequel Jean de Mur et puis d'autres auteurs qui traitent de théorie de la musique au début du XIVe siècle cherchent à souligner la nouveauté de leur pratique musicale qui se traduit surtout par le fait que c'est de la musique... Alors, je sais pas si... Voilà. C'est de la musique mesurée. Donc c'est des polyphonies avec, pour la première fois, hein, enfin, pour la première fois, vraiment... des mesurés rythmiquement. D'accord? Donc, et puis là, vous voyez qu'il s'interroge aussi, alors je vais pas trop prendre le temps de commenter ça parce qu'il faut que j'aille un petit peu plus vite, mais sur les différents genres, donc chromatique, enharmonique et diatonique. Le genre diatonique, c'est le genre qu'on pratique toujours aujourd'hui. Chromatique et enharmonique, c'était des genres de la musique grecque et ça correspond à des manières de fabriquer la gamme qui ne sont pas comme la nôtre. Nous, on utilise des tons et des demi-tons. Dans les genres chromatiques et en harmonique, on utilisait aussi des quarts de tons. Et bien sûr, bah, personne ne chantait de cette manière-là au Moyen-Âge. Et c'était souvent un sujet d'interrogation. Comment ça se fait? Alors là, c'est la volonté divine ou l'instinct naturel. On reviendra un petit peu sur ça plus tard. Parce qu'il s'interroge beaucoup sur l'évolution des pratiques musicales. Les sources livresques. Alors, là, on est avec un genre d'accès à la réalité sensible qui nous paraît vraiment étrange pour nous, parce que, en tout cas dans le cadre d'une utilisation scientifique, parce que bon, si on veut apprendre des choses sur les volcans, c'est encore plus simple pour nous d'aller ouvrir un ouvrage sur les volcans plutôt que d'aller voir directement un volcan et d'essayer de comprendre. Mais lorsqu'on est un scientifique et qu'on veut apprendre des choses sur les volcans, en général, on essaye d'aller voir un volcan. Là, même les meilleurs scientifiques de l'époque vraiment utilisent des sources livresques et pour différentes raisons, comme accès à la réalité sensible. Donc là, je vous ai mis un exemple qui vient de Thierry de Freyberg. Donc toujours dans le même texte sur l'arc-en-ciel, il s'interroge sur qu'est-ce que c'est qu'une couleur finalement. Et il reprend une théorie Averroès qui dit qu'une couleur, c'est un mélange de corps plus ou moins lumineux ou de corps plus ou moins diaphane. Alors le diaphane, c'est la transparence du milieu. Donc là, Thierry de Freyberg utilise vraiment aussi les météorologiques d'Aristote pour comprendre comment est fabriqué un nuage. Il utilise aussi le traité de l'âme d'Aristote pour comprendre comment nos sens fonctionnent, étant donné qu'il va être intéressé par l'œil vraiment dans son travail. Donc, beaucoup de sources livresques utilisées. En optique, là, je vais... Le point aussi à voir, c'est qu'il n'y a pas de dimension temporelle dans les observations. D'accord ? Les couleurs, c'est un mélange, et puis c'est comme ça maintenant, et c'est comme ça il y a 2000 ans, et ça sera toujours comme ça dans 2000 ans. En astronomie, en musique, il va y avoir une dimension temporelle un petit peu dans les phénomènes. Les phénomènes musicaux évoluent. Là, on a vu tout à l'heure qu'ils s'interrogeaient pourquoi le genre en harmonique et chromatique ont disparu. Là, on a un petit passage dans lequel un autre auteur, un peu plus tardif que Jean Demure, s'interroge sur une évolution la plus pédagogique. L'Ars, c'est un texte qui est destiné à de jeunes chantres qui vont devoir apprendre à chanter. Et donc, quand il parle de ce que les anciens ont inventé dans les cordes, il parle d'un instrument qui s'appelle le monocorde et qu'on divise pour fabriquer la gamme. Et puis, en fait, les chantres, ils utilisent aussi la main, qu'on appelle la main guidonienne, sur laquelle on va pouvoir positionner les différents intervalles musicaux, et c'est une sorte de moyen mémotechnique pour se rappeler de la composition de la gamme. Et donc, là, il est en train d'expliquer que y a eu une certaine théorisation de la gamme, et puis après, on a changé de support un peu plus tard. Et il y a beaucoup de réflexions comme ça au début du XIVe siècle, parce qu'il y a une révolution dans les pratiques musicales. Et souvent, quand ils présentent leur point de vue en entier sur pourquoi est-ce que les pratiques musicales évoluent, ils relient ça à une doctrine astrologique qui est la doctrine de la grande année. Donc cette doctrine, c'est une doctrine qui dit au départ de l'univers, toutes les planètes étaient alignées avec le bélier, et puis après, chacune avance à son rythme. Et au bout d'un moment, normalement, elles vont, dans un certain temps qui est très long, elles vont revenir dans la position initiale. Et donc ça, c'est une grande année. Donc c'est une doctrine très ancienne. On peut trouver des traces de ce genre d'idées de l'astronomie babylonienne. Et l'idée, c'est que les religions, les pratiques artistiques, les croyances scientifiques, tout ça est plus ou moins régi par ce cycle-là. Et que donc, lorsque une révolution complète sera effectuée, peut-être que le genre chromatique et en harmonique vont réapparaître dans les pratiques musicales. Il y a cette idée-là, il y a une évolution naturelle en fait des pratiques musicales. Ça ne les empêche pas de dire que quand même, eux, c'est mieux. Même si ce n'est pas de leur faute et que c'est naturel, quand même, la musique mesurée, c'est vraiment beaucoup plus joli que tout ce qu'on pouvait faire avant. En astronomie, la dimension temporelle, elle est vraiment très importante, puisque là, vous avez un passage que vraiment j'aime beaucoup. Je vais le lire pour les choses dont la connaissance se trouve dans l'expérience qui n'est éprouvée qu'une fois, puisqu'ils imaginent que bien sûr, il y a la doctrine de la grande année, donc peut-être que dans 50 000 ans, on pourra observer exactement la même chose, mais les planètes, donc, elles changent, et quand on observe une pleine lune à un moment donné, 10 ans après, même si une autre pleine lune, tous les autres paramètres sont ailleurs. Donc, ce n'est pas la même observation. Donc, on n'observe qu'une fois chaque observation astronomique. Et c'est indispensable d'avoir des observations qui sont posées dans des livres pour ne serait-ce que calculer le cycle d'une planète. Par exemple, Saturne, ça met 47 ans pour faire un tour complet. Donc, il est peu probable qu'on puisse faire 2 observations de Saturne au même endroit dans sa vie. Et puis, si on veut calculer précisément certains cycles, on a besoin de longues périodes. Donc, les astronomes, vraiment, dans leur pratique quotidienne, ils utilisent constamment des sources livresques parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que si on veut calculer précisément la vitesse du Soleil, il faut pouvoir prendre une position du Soleil il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 2000 ans. Et donc, on doit faire avec les livres. Donc, si dans l'aspect observation quotidienne, ce qui faisait principalement la différence entre les trois disciplines, c'était le rôle de l'observateur qui était plus ou moins fabriquait plus ou moins le phénomène. Ici, j'ai plus la dimension temporelle qui va impliquer un rapport différent aux sources livresques. Hop. Maintenant, le dernier aspect. Alors, déjà, avant de... Il faut préciser un petit peu ce que j'entends par expérience et dispositif de mesure. Il y a des points communs avec ce que nous, on appelle expérience, qui sont qu'on a affaire à un dispositif qui est contrôlé. Par exemple, pour une observation astronomique, l'observateur a calculé à l'avance qu'il y aura une éclipse de soleil qui pourra observer ce moment-là. Calculer une éclipse de soleil, son moment exact, ça prend, j'ai fait ce genre de choses à la main moi-même pour voir, ça prend plusieurs heures de calcul, voire plusieurs jours quand on fait tout ça à la main. Donc il faut prévoir ça à l'avance. Il faut préparer son instrument, le construire suffisamment grand et le positionner correctement pour que les mesures soient significatives. Donc il y a cet aspect qui ressemble à nos expériences à nous. Il y a un milieu contrôlé, on a préparé les choses avant de faire l'observation. Il y a un autre aspect qui ressemble à nos expériences de la science, au moins de la science classique, c'est qu'on effectue souvent des mesures ou du moins il y a une description mathématique de ce qu'on fait. En revanche, on n'a pas du tout, vous avez compris, le cadre axiomatique ou déductif et l'expérience qui va nous infirmer ou nous confirmer une hypothèse. On est dans une situation un peu plus floue et, pour dire les choses différemment, la philosophie des sciences, c'est plus une situation cohérentiste. Voilà, il y a tout qui est un peu au même niveau. Après, dans les sources, est-ce qu'il y a eu vraiment eu une expérience? Lorsqu'un auteur médiéval nous dit « j'ai observé », est-ce qu'on va le croire à chaque fois? Alors, c'est assez difficile, ça, de répondre à la question vraiment dans chaque cas. Il y a quelques situations où on peut donner une réponse. Lorsque l'expérience décrite est impossible, par exemple, on sait qu'il est en train de nous mentir quand il a dit qu'il a observé ça, puisque ça ne peut pas arriver. Donc là, j'ai pas de petit tableau là, mais il y a des exemples, par exemple, en optique, où il dessine le trajet d'un rayon lumineux à travers une lentille qui est une sphère, et il a un point focal de l'autre côté, ce qui n'est pas possible. Et puis, d'ailleurs, lui-même, comme il a un peu inventé la chose, il ne met pas toujours le point focal au même endroit. Parfois, il est symétrique de la source lumineuse, parfois non. Donc là, on se dit, c'est une expérience sur le papier, en fait. Ce n'est pas une expérience réelle. Il y a d'autres fois où on peut être sûr, au contraire, qu'il a fait une expérience, c'est quand il décrit des phénomènes qu'il ne pouvait pas prévoir avec la science, avec les connaissances de la discipline à l'époque. Par exemple, pour continuer avec l'optique, le même Thierry de Freiberg décrit que lorsqu'il observe un rayon lumineux qui se réfracte à travers un prisme, il voit apparaître les couleurs seulement s'il met l'écran à plus de 2 doigts de la sortie du prisme. Donc, et puis il nous dessine une petite barre avec la distance de 2 doigts. Donc ça, ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait expliquer avec les théories optiques de l'époque, puisqu'il est l'un des premiers à construire une théorie optique qui explique la formation de ces couleurs radiantes. Donc là, il n'a pas pu inventer ce phénomène-là, donc il a dû faire une observation. Autre cas similaire, en astronomie, les tables prédisent que le Soleil doit se trouver à tel endroit à tel moment, et puis l'observateur voit un autre endroit, ou à cet endroit-là, mais à un autre moment. Donc dans ces cas-là aussi, on est sûr qu'il a vraiment fait une observation, puisqu'il n'y avait aucun moyen théorique de fabriquer ce résultat. Et puis, il y a un autre élément qui brouille un petit peu les choses, c'est qu'ils se transmettent tout un tas d'observations, qui sont soit des expériences sur le papier, soit des vraies observations, et qui sont transmises comme un petit peu des motifs littéraires. Donc je vous ai parlé de l'expérience de Pythagore et de ses marteaux. Pour parler d'une autre qui circule pas mal en musique, c'est une expérience, une histoire de toupie. Si on met un petit point sur une toupie et qu'on fait tourner la toupie très vite, on voit un trait continu. Bon, voilà. Et cette petite expérience, que probablement ils n'ont pas souvent refaite, Elle servait à expliquer que le son étant un mouvement et les vibrations étant, on peut voir la corde vibrer, il y a plusieurs mouvements. Comment ça se fait que, étant donné que plusieurs mouvements, on entend un son qui est un son continu? Ben, ils disent c'est la même illusion que pour la toupie. Donc, et puis il y a vraiment beaucoup d'expériences de ce genre, et c'est même le raisonnement selon l'imagination, ça devient un élément central de la mécanique et de la philosophie naturelle à partir du XIVe siècle. Donc les expériences qui se transmettent, qui sont jamais faites, qui ne sont pas possibles, et qui se transmettent seulement de manière littéraire. Bon, alors une fois qu'on passe à travers tout ça, on peut essayer de regarder un petit peu les éléments d'observation et d'expérience. Alors l'instrumentation n'est pas la même dans les différentes disciplines. En musique, l'instrument principal, c'est le monocorde. Donc le monocorde, c'est une corde tendue sur une caisse de résonance et un chevalet mobile sur cette corde. Et donc, en plaçant le chevalet à différents endroits, on va créer différentes proportions, et c'est un outil d'expérience pour fabriquer différents rapports musicaux, différentes gammes, etc. Donc ça, là, en musique, il y a vraiment un objet central qui est à la fois un objet théorique et un objet d'apprentissage. En optique, il y a beaucoup d'objets différents, et ils sont bon, des petits prismes. On remplit des ballons d'eau pour modéliser les gouttes d'eau. Donc ça, par exemple, Roger Bacon le fait, Thierry Freiberg le fait, Albert Legrand aussi. Après, il y a les miroirs, bien sûr, qui sont là. Donc il y a tout un tas de petits objets qui sont utilisés. Et par exemple, pour l'étude du phénomène de la réfraction, on a compris que l'angle se modifie et se rapproche ou s'éloigne de la normale suivant la diaphanéité du milieu. Mais on n'a pas pensé encore du tout à mesurer ces angles et essayer de trouver une loi de Snell-Descartes. On n'a pas repéré l'élément de description qui va être finalement l'élément clé. Donc on est au tout début de l'expérimentation avec ces objets-là, on ne comprend pas encore exactement tout ce qu'il faut regarder. En astronomie, l'instrument star, c'est l'astrolabe. Il y a tout un tas d'autres instruments qui sont là. On construit des instruments aussi pour une observation, qui peuvent être de grande taille. Là, par exemple, Jean de Mur, il fabriquait des instruments qui faisaient 14 pieds. Donc ça fait à peu près 3 mètres, 14 pieds de rayon, pour juste mesurer la hauteur du soleil à un moment donné. Mais c'est des instruments qui sont décrits. Là, il y a aussi donc une variété d'instruments, mais ils sont décrits depuis longtemps. Et on sait les utiliser, et on a un dispositif de mesure qui est assez précis, on sait comment faire. Donc il y a là des différences assez importantes entre les différentes disciplines. L'autre aspect que je voulais regarder, c'était un petit peu les descriptions. Alors, comment est-ce que sont décrites les expériences? Donc, je vais parler de la légende de Pythagore. Donc, parfois, on invente une histoire. Puisque Pythagore, est-ce qu'il est vraiment passé à côté de... On ne saura pas. Mais en tout cas, c'est une histoire qui est utilisée et qui est travaillée pour l'adapter à tel ou tel type d'épistémologie. Donc là, on a vu un petit peu avec Jean de Mur comment il utilisait cette histoire pour l'adapter à l'épistémologie aristotélicienne. Le même Jean de Mur, lorsqu'il rencontre une observation astronomique dans un traité, il fait un pastis de chartes. Il fait une observation, il est seul à la faire apparemment. Donc il se trouve des témoins qui sont des instruments astronomiques, et puis il introduit et il conclut son petit rapport d'observation exactement comme une charte notariale. Donc là, il utilise un modèle un peu surprenant. Il y a ensuite dans le même texte où il fait ce pastis de chartes, il propose des observations que cette fois-ci il n'a pas fait lui-même, qu'il a pris dans d'autres textes, et il les mélange avec des calculs. Alors, il fait ça d'une manière assez déroutante au début pour nous, on ne comprend pas exactement ce qui se passe. Il fait un calcul, par exemple, pour calculer la valeur d'un paramètre astronomique, et puis au milieu de son calcul, il introduit une observation. Mais la valeur de l'observation, c'est un élément intermédiaire du calcul. C'est ni le point de départ, ni le point final. Et elle arrive au plein milieu. On aurait pu utiliser une table à ce moment-là, mais non, il utilise un élément d'observation. Puis, quelques paragraphes plus loin, il fait la même chose, sauf qu'il met un autre élément d'observation ailleurs dans le calcul. Et c'est assez difficile au départ de comprendre ce qu'il est en train de faire avec ses observations à ce moment-là. Et en fait, ce qu'on finit par comprendre, c'est qu'il est en train de cette manière, d'essayer de... Comme il n'a pas de modèle pour confronter directement une observation et le résultat d'un calcul, il les mélange de cette manière, et puis il observe les erreurs produites s'il a mis l'observation à cet endroit-là ou l'observation à cet autre endroit. Et comme ça, il teste la cohérence entre les valeurs des tables et les valeurs d'observation. Donc c'est une manière de confronter les résultats de l'expérience avec la théorie. Mais comme on n'a pas d'épistémologie pour faire ça, on le fait de cette manière-là. Description géométrique, une autre situation dans laquelle on est un peu surpris au départ. Donc là, on est en optique. Thierry de Freiberg nous dit, et on peut faire l'expérience de ce fait de cette manière. Donc on s'attend, comme on en a déjà eu des histoires sur des roues de moulins ou des toiles d'araignée, on s'attend à quelque chose comme ça. Et en fait, non. Il nous décrit une figure géométrique. Et présente ça comme une observation. Donc là, on est en face d'une observation que j'ai appelée expérience de pensée ou expérience sur le papier. Et quel est l'intérêt de ces choses-là ? Bah, c'est lorsqu'on fait une observation comme ça, géométrique, c'est le seul moyen en fait, dont il dispose pour mettre en œuvre les lois de l'optique. Les lois de l'optique médiévale, elles sont formulées de manière géométrique. Donc si on veut essayer de comprendre ce qui se passe avec les lois de l'optique médiévale, bah, on est obligé de construire une figure en suivant ces lois. Et donc cette manière de... Mais il ne décrit pas ça comme je mets en application des lois, il décrit ça comme j'observe quelque chose en train de se dérouler. Bon, donc c'est un genre d'observation pour lui. J'ai encore un tout petit peu de temps. J'en mets un petit dernier. Autre, parce qu'il ne me reste qu'une diapo. Voilà. Non, mais il me reste qu'une petite diapo de conclusion, donc juste, il y a, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, cette histoire des inventions, un petit peu, comment on va décrire les observations. Il y a un autre passage pour l'astronomie, où Jean de Mur est dans une situation où il écrit pour lui-même. Dans ce que je vous ai présenté, là, le pastis de Chartres, où on met une observation au milieu d'un calcul, c'est dans le cadre d'un traité qu'il va partager avec d'autres spécialistes de l'astronomie. Il y a une autre source qu'on possède grâce à Guy Beaujouan, dans lequel il y a le manuscrit de l'Escorial O210, pour le citer, dans lequel Jean de Mur a pris des notes sur toutes ses observations astronomiques pendant une vingtaine d'années. Dans les marges d'un manuscrit, il a décrit. Donc là, il écrit pour lui-même. Et il présente les choses d'une manière vraiment très différente. Il ne prend pas la peine réellement de raconter une histoire ou quelque chose. Il présente ces calculs préliminaires d'abord, qui sont faits que avec les valeurs tabulaires. Il ne mélange vraiment pas les valeurs d'observation et les valeurs qui proviennent des tables. Et puis, une petite narration qui décrit son observation. J'ai observé le soleil à telle hauteur pendant tel temps, l'éclipse a duré tant de temps, etc. J'étais avec tel et tel personnage important, avec la reine de Navarre, avec trois frères franciscains, qui avaient de bons astrolabes. Et j'ai observé que par rapport à mon calcul, j'avais 20 minutes de différence. Il y avait une erreur. Ensuite, à nouveau, une nouvelle série de calculs présentés sous forme tabulaire avec que des éléments de table. On essaye de calculer différemment pour rendre compte de l'erreur. Est-ce que je vais pouvoir présenter mon calcul d'une autre manière et retrouver ces 20 minutes ? Et puis, à nouveau, un passage narratif où il va discuter à nouveau ces questions-là. Et cette manière de... Là, cette fois-ci, en contraste avec ce qu'il faisait dans le texte pour les autres spécialistes, il ne mélange pas du tout les valeurs d'observation et les valeurs tabulaires. C'est une manière de présenter les observations astronomiques qui sera reprise ensuite par les astronomes viennois du XVe siècle. Et c'est les premiers grands programmes d'observation de la science, le début de la science moderne, quoi. Donc, c'est... Vraiment voilà, pour des observations, des descriptions vraiment différentes, il y a tout un tas de directions qui sont explorées et certaines qui vont rester ensuite. Donc, sur la valeur de généralité, le poids d'une expérience, d'une observation, c'est toujours le fruit d'un dialogue avec les autres formes d'accès à la réalité sensible. Par exemple, pour l'astronomie, dans les observations qui sont mélangées dans les calculs, eh bien, on a des observations de Jean de Mur qui sont mélangées avec des observations qu'on a trouvées dans des livres, qui sont mélangées avec des valeurs qu'on a trouvées dans les tables. Et donc là, on a un rapport entre l'observation qu'on fait nous-mêmes et puis des observations qu'on a prises des sources livresques. Dans les traités optiques, on a le rapport, cette fois, entre nos observations et puis l'observation quotidienne. C'est-à-dire qu'au milieu de toute la série de la rosée sur l'herbe, de la rosée sur l'étoile d'araignée, on a d'un coup un autre exemple, qui est une autre illustration possible de ce même phénomène universel qu'on est en train d'examiner, qu'il y a du jaune à chaque fois dans l'arc-en-ciel, et qui est un prisme optique qu'on a décrit de manière géométrique. Et on dit « on observe ». Et à chaque fois, donc il y a le rapport avec les autres sources d'accès à la réalité sensible, et c'est négocié dans une certaine forme littéraire qui, j'ai essayé de vous montrer qu'elles étaient variées. Et la généralité, elle est toujours exprimée de manière mathématique. Ça aussi, c'est un élément important pour les optiques, astronomie et musique. C'est que c'est les aspects mathématiques de la description de l'observation qui vont assurer sa généralité et faire en sorte qu'après on va pouvoir construire quelque chose de déductif autour de tout ça. Voilà. Je vous remercie.
Merci Mathieu Husson. Y a-t-il des questions ? Attendez, monsieur, il faut parler dans le micro. Et voilà.
J'ai écouté les passages des sciences intermédiaires et je me posais une question parce que je n'ai pas trouvé référence dans votre exposé. Et la place de la réalité sensible de la poésie ou des poètes, on pourrait la mettre où par rapport à tout ce que vous venez de dire ?
Une question surprenante. La place des. Est-ce que j'ai du mal à cerner en fait là. Est-ce que le la poésie. Donc la manière dont les poètes rendraient compte eux de la réalité sensible. Est-ce que ça c'est considéré dans les dialogues, dans les débats sur les sciences intermédiaires? C'est ça la question que. D'accord. Eh bien, j'ai pas l'impression.
Je vais poser la question parce que ce qui se passe dans l'an, ça se souvient, madame Bonpoix.
Il y a quelques années, de ça, déjà, 3-4 années, peut-être plus, elle avait invité un professeur algérien qui habite à Paris, au français, mais d'origine algérienne. Il n'avait pas eu le temps, puis il a dit, mais je pourrais aussi vous expliquer la corrélation de la poésie à la mathématique.
Ok.
Oui, oui. Et c'est ce monsieur qui nous avait donné la mauvaise nouvelle en plus, parce qu'il y a eu une supposition de poésie quelques années avant, qui est organisée par un jeune écrivain d'origine arabe, je ne sais pas, iranienne ou pakistanais. Il y avait M. Labib, un grand, grand poète, et il a été tué par les intégristes, et c'est lui qui nous avait donné la nouvelle.
C'est avec Jebar. Il revient cette année.
Oui. Oh, donc, comme ça.
Conférence dans les amphis du savoir.
Donc, bon, on pourra poser la question à Ahmed Jebar. Alors, je ne sais pas ce que Ahmed Jebar vous pouvez avoir en tête, là, vraiment. Moi, là où je vois un lien éventuel avec la poésie, ça serait plutôt dans la discipline musicale. Et un lien avec les mathématiques aussi, du coup, puisque En fait, une des caractéristiques, mais ça nous éloigne un tout petit peu du sujet, mais c'est un autre sujet intéressant. Une des caractéristiques de l'Ars Nova, c'est non seulement qu'il y a une mesure mathématique des rythmes, mais que les compositeurs en fait vont assumer le fait que la musique est une science mathématique, et dans la construction de leur composition, ils vont essayer d'employer un certain nombre de rapports qui sont les rapports qu'on trouve dans la gamme pythagoricienne. Et il y a un lien entre cette pratique-là et certaines formes poétiques médiévales qui aussi utilisaient un petit peu essayer d'exploiter différents rapports combinatoires sur la forme qu'ils donnaient, les rythmes qu'ils donnaient à leur vers ou les rythmes qu'ils donnaient à leur rime. La sextine notamment est une forme assez intéressante de ce point de vue-là. Maintenant, sur la description poétique de la réalité et l'épistémologie médiévale, j'avoue que là, je ne sais pas quoi vous dire.
Justement, je voulais poser la question de la notation musicale, en fait, telle qu'elle a évolué au fil du temps, à la période médiévale, si ça reflète à peu près ce que vous avez dit, mais enfin, vous avez déjà abordé un peu la question. Je veux savoir la spécificité de l'influence arabe dans tout ça.
De l'influence arabe sur la notation musicale?
Non, sur l'ensemble de la question.
Parce que sur la notation musicale, il n'y en a pas d'influence arabe.
Non, c'est pas...
Donc, l'évolution des notations musicales, j'en ai un tout petit peu parlé. On va dire qu'avant 1320, il y avait une notation rythmique, mais qui était fondée plus sur la prosodie et sur la différence entre les valeurs longues et les valeurs brèves des voyelles. Et puis, à partir de 1320, en fait, à partir de 1300, il y a tout un tas de compositeurs et de notateurs qui utilisent des rythmes. Donc, du coup, on peut faire, en gros, des rapports rythmiques qui sont de 2 à 1. Noir, croche, ou blanche, noire, des choses comme ça. Mais les compositeurs s'ennuient assez vite avec ça et ils ont envie de faire d'autres rapports numériques. Et donc, ils inventent des notations pour faire d'autres types de rapports. Et c'est Jean de Mur et puis un autre auteur qui s'appelle Philippe de Vitry qui ont systématisé tout ça pour avoir une notation rythmique qui va être... alors, ce n'est pas les mêmes manières de noter, mais qui va être finalement globalement équivalente à celle qu'on utilisait, en tout cas encore il n'y a pas très longtemps, puisque maintenant, ça évolue à nouveau beaucoup, la notation musicale. Donc celle en tout cas qu'on apprend au conservatoire toujours. Alors l'influence arabe sur tout ça. Alors sur les questions épistémologiques, je dois avouer là un petit peu mes limites. L'épistémologie arabe, je la connais vraiment qu'à travers ce que j'ai pu en lire chez les latins. Pour ce qui est de l'astronomie et de l'optique, c'est évidemment très très important. Le texte essentiel d'optique médiévale, c'est le traité de perspective de Al-Hazen ou Ibn al-Haysam, et c'est un traité qui était lui-même construit par Ibn al-Haysam sur le modèle de l'astronomie de Ptolémée dans la manière dont il utilise l'observation et l'instrumentation et l'expérience. Donc et puis en astronomie, les sources arabes sont aussi vraiment essentielles. Ce sont des tables arabes qui sont tables de Tolède, donc tables plutôt Andalousie, qui sont les tables essentielles de la fin du XIIIe au début du XIVe siècle. Et au début du XIVe siècle, de nouvelles séries de tables aussi apparaissent. L'origine un peu plus délicate à déterminer, qui sont les tables alphonsines, mais qui viennent aussi de l'Espagne, cette fois-ci moins médiévale. Elle est plus médiévale à ce moment-là. Donc, sur le modèle principal en optique, c'est un texte arabe, et sa manière d'utiliser les observations va influencer ce que font les médiévaux. Les principales sources astronomiques sont aussi arabes, même si là, elles sont très, 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 très semblables, enfin, sont pas trop éloignées de ce que proposait l'étape facile de Ptolémée. Mais donc, il y a certainement une grande influence dans la manière de voir les observations. Je ne sais pas si dans les textes arabes, il y a la même créativité dans la manière de présenter les sources. En tout cas, dans ce que connaissaient les latins des sources arabes, puisqu'ils connaissaient vraiment les grands textes classiques. On n'a pas d'excentricité comme un pastis de Chartres dans Ibn al-Haytham, par exemple. Sur cette créativité-là, en tout cas, même s'il y a peut-être des choses similaires chez les Arabes, ils n'étaient pas très connus des Latins, je pense. Maintenant, en ce qui concerne la lecture, bien sûr, d'Aristote et la compréhension de ses théories épistémologiques, Avicenne et Averroès, ils ont été déterminants dans leur interprétation, et les Latins se sont positionnés par rapport à ça. Là aussi, dans inventer les sciences intermédiaires, dans comprendre la notion de subalternation, dans comment utiliser cette notion pour comprendre l'optique, la mécanique, etc., ils se positionnent par rapport à Averroès, par rapport à Avicenne. Donc c'est très important, bien sûr.
Je ne sais pas si je peux encore... J'ai une question un peu lourde et un peu naïve. Il y a un traité de Trinitate.
Oui.
Et puis on arrive, dans un petit passage que vous avez parlé, donc ouais. de science, etc. Je ne sais pas si vous avez eu l'ensemble, mais comment vient-on des questions proprement théologiques, a priori, à cette question plus scientifique?
Alors, parce que le début du De Trinitate, Thomas d'Aquin s'interroge sur si je veux parler de la Trinité, comment est-ce que je peux savoir des choses dessus? Il commence par se poser une question d'ordre épistémologique. Qu'est-ce que je peux savoir de la Trinité? Il déborde rapidement de ça à est-ce que la théologie est une science et de quelle manière et quelles sont ses méthodes et quels sont ses objets. Thomas d'Aquin étant Thomas d'Aquin, après il brasse, toute la culture presque philosophique qui est à sa disposition. Donc le passage que je vous ai extrait, il est dans cette discussion générale de dans quel sens la théologie est une science. Et en fait, il va utiliser la notion de subalternation en disant, de la même manière que, par exemple, l'optique est subalternée à la géométrie, parce qu'elle a ses conclusions qui viennent de la géométrie, les conclusions sont sur un objet naturel, mais ça vient des mathématiques, ces arguments, eh bien, il va y avoir un rapport qu'on peut faire du même ordre entre quels sont les objets de la théologie, alors l'interprétation de l'écriture et puis la révélation divine, et quels sont ces outils conceptuels. On va pouvoir essayer d'utiliser la notion de subalternation pour faire une sorte de parallèle entre il y a la création et différents moyens qu'on a de l'étudier, et puis il y a la révélation, la Bible, qui nous donne un certain nombre d'informations, et les différents moyens qu'on a de l'étudier. Donc ça, c'est un peu le grand cadre général dans lequel cette première introduction de l'idée science intermédiaire apparaît. Et il va servir de notion de subalternation comme un des outils pour expliquer la scientificité de la théologie. Voilà. Mais bon, tout ça c'est vraiment assez schématique.
Si grand expérimentateur que s'il paraît-il intéressé un peu à tout, quel genre de texte là? Est-ce qu'on a un peu dans le même ton ou est-ce qu'il a lui...
Albert Legrand, c'est effectivement un des grands auteurs qui, quand je vous ai cité au début qu'il y avait une longue littérature sur l'expérimentation au Moyen-Âge, Albert Legrand, c'est un des auteurs sur lequel il y a plusieurs monographies importantes qui traitent que de ce sujet-là. Albert Legrand, un des premiers commentateurs de toute l'œuvre d'Aristote dans l'ensemble, un des fondateurs de l'école de pensée à laquelle aussi va appartenir un peu plus tard Thierry de Freiberg, que j'ai examiné ici. J'ai pas en tête exactement de conclusion à vous donner sur ce qu'on dit. C'est des études assez anciennes déjà en fait sur Albert Legrand. Qu'est-ce que j'essaie de me rappeler, ce que j'ai dans ma mémoire sur Albert Legrand et les séminaires. S'il y a un élément. Par exemple, sur l'arc-en-ciel, Albert Legrand utilise les mêmes outils, et je crois, pour le coup, en Occident, un des premiers que Thierry de Freiberg plus tard. C'est-à-dire. Il va modéliser les gouttes d'eau avec le même objet, c'est-à-dire une fiole. Il remplit une grande fiole avec de l'eau et puis il regarde ce qui se passe. Le prisme hexagonal, il réfléchit à partir des mêmes textes que Thierry de Freyberg. Maintenant, je pense que sur le point de vue de l'expérience à proprement parler, il a été moins loin que ce qu'a fait Thierry de Freyberg. Mais Thierry Freyberg repart d'Albert le Grand et essaye de montrer qu'il s'est trompé, montrant qu'il y a des incohérences. Donc il y a une filiation, par exemple, pour l'optique là, qui est assez claire entre Albert le Grand et Thierry Freyberg. C'est les mêmes dominicains. Alors Thierry Freyberg, donc c'est un des grands philosophes du XIIIe siècle. Pour citer un petit peu, il se situe entre justement Albert, dans une école que Alain de Libera a caractérisée comme celle des mystiques rhénans. Il a écrit un ouvrage, plusieurs ouvrages sur ces gens-là. Donc qui commence un petit peu, on peut dire, avec Albert le Grand et qui s'achève avec Maître Eckhart. Donc, là, il y a toute une série de maîtres qui existent, qui étudient dans les studiums dominicains allemands, qui viennent prendre leur doctorat de théologie à Paris. Pendant un an ou deux, ils vont à Paris, ils passent leur doctorat, et puis voilà. Donc Thierry Freyberg, il a écrit vraiment essentiellement des traités théologiques et philosophiques. C'est des traités, par exemple, il y a un traité sur l'être et l'essence, dans lequel il débat avec Thomas d'Aquin, avec lequel il n'est pas d'accord sur ces questions-là. Il écrit des traités sur la théorie de l'intellect, il écrit des traités sur le corps du Christ après la résurrection, et puis des traités de philosophie naturelle, qu'est-ce que c'est la couleur, qu'est-ce que c'est l'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est le mélange entre différents éléments, comment on a différents degrés de chaud, de froid, comment ça se passe. Les œuvres complètes de cet auteur, ce qui ont été éditées il y a maintenant une vingtaine d'années, ça fait à peu près 2000 pages. Donc c'est vraiment un gros, gros, gros morceau. Et voilà, surtout, il est connu pour son opposition à Thomas d'Aquin. Sur cette question, au point de vue philosophique, hein, sur cette question de distinction entre être et essence. Thomas d'Aquin imagine qu'il y a une essence des choses qui est indépendante du fait qu'elles existent ou pas. On peut. Je sais pas. Alors, du moment que ce n'est pas contradictoire, c'est possible d'avoir une essence. Donc, il n'y a pas d'essence du carré rond, parce que le carré rond, c'est contradictoire. Mais par contre, il peut y avoir une essence du triangle, indépendamment du fait qu'il y ait des triangles qui existent vraiment. Thierry Freyberg pense que s'il y a quelque chose comme si on peut définir le triangle, c'est qu'il existe vraiment d'une certaine manière, peut-être pas physiquement, mais d'une certaine manière il existe, et qu'on peut pas séparer les choses, et que c'est mal comprendre Aristote, et que c'est dangereux de penser comme ça. Donc il a c'est un point de vue philosophique qui a l'air assez abstrait comme ça, mais qui va avoir des conséquences même dans sa manière de penser les expériences. Juste la possibilité pour lui d'utiliser les expériences géométriques comme je les ai décrites. Là, je vous en ai parlé dans le cadre général aristotélicien les lois de l'optique, c'est formulé de manière géométrique, donc on n'a pas le choix. En fait, chez Thierry de Freyberg, il a eu une vision des choses qui lui permet, en partant de cette distinction-là entre être et essence, et dans le fait que s'il y a une essence, il y a existence, ça lui donne une justification beaucoup plus forte en fait de l'utilisation de ces expériences de pensée-là dans son travail. Et il l'exploite même, par exemple, pour définir des objets, quelque chose qui serait impossible dans l'épistémologie d'Aristote. Dans l'épistémologie d'Aristote, on a le droit de, par exemple, ce que j'ai dit tout à l'heure, de partir de la table et puis de faire abstraction de tout un tas d'éléments matériels et de considérer que le rectangle. En revanche, ça serait interdit d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de partir d'une idée abstraite de rectangle et puis de rajouter des éléments matériels dessus jusqu'à ce que ça devienne une table. Et bien, dans la version, dans la philosophie de Thierry Freyberg, ça c'est un élément qui est faisable. Donc, par exemple, le diaphane, il l'explique de cette manière. Le diaphane, c'est la transparence d'un milieu. Peut-être on va terminer avec ça. c'est la transparence d'un milieu. Et donc, le rayon lumineux se propage en ligne droite. Ça, c'est une donnée. Donc, il se propage d'autant plus facilement que le volume dans lequel il se... le corps dans lequel il se propage est constitué de lignes droites. Et donc, en fait, il va expliquer comme ça les différences de diaphanéité entre les différents milieux. Un objet opaque, il va être opaque parce qu'il n'est pas constitué de lignes droites. Il est constitué de plein de morceaux qui sont dans tous les sens et du coup, le rayon lumineux, il ne passe pas. Et un objet bien transparent, il est constitué bien de lignes droites. Donc, il a un passage qui est assez surprenant où on part d'une ligne droite et puis il explique d'abord qu'il y a les lignes droites et les lignes courbes. Bon. Et puis dans les lignes droites et les lignes courbes, il y a celles qui sont lisses et celles qui sont rugueuses. Et puis après, avec ces lignes droites et ces lignes courbes, on fait des surfaces en faisant bouger la ligne droite qui sont soit planes et lisses, soit planes et rugueuses, soit courbes et lisses, soit courbes et rugueuses. Et puis après, en faisant bouger ces surfaces, on fabrique des corps. Et si on est un corps fabriqué avec des lignes courbes et rugueuses, on ne va pas faciliter la circulation de la lumière. Et au contraire, si on est un corps qui est fabriqué avec... Des lignes plates et lisses, alors on va faciliter la circulation de la lumière. Et c'est pour ça qu'il y a certaines surfaces qui réfléchissent bien la lumière, comme les miroirs, parce qu'elles sont formées de lignes droites et lisses, et d'autres, pas du tout, parce qu'elles ne sont pas formées avec des lignes de cette manière-là. Donc là, on a une explication de quelque chose de physique qui part au départ d'une ligne droite, qui est un objet réellement abstrait. Quoi. Bon, comment on va fabriquer un corps avec des lignes droites ? Dans son épistémologie, c'est quelque chose de faisable. Et c'est quelque chose qu'il utilise.
On en reste là. Merci beaucoup, Mathieu. Bon, je revois en janvier, mais vous pouvez venir avant si vous voulez. Hein. Donc, ça sera le 10 janvier, la métallurgie du clos à Gentilfer. Il y a un programme, les livrets sont encore édités avec des résumés, mais c'est un nouveau programme de séminaire. Vous avez la permission d'apporter ce document que j'ai mis exprès, fait mettre exprès sur les chaises pour partir avec. Donc le programme du séminaire est parti.